Bonjour Raphaël Antoven.
Bonjour Éric Delvaux, bonjour à tous. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Faut-il rappeler que vous êtes philosophe, essayiste. Votre dernier livre revisite l'école des femmes de Molière à l'aune de notre société moderne post-MeToo. Ça s'appelle l'école des dames. Je le dis avec enthousiasme parce que j'ai eu beaucoup d'enthousiasme à lire ce bouquin très très frais.
Enthousiasme partagé. Non, c'est vrai.
L'école des dames.
Non mais merci les amis.
Ça va.
Allez,
vous
continuez s'il vous plaît.
Parodie en trois actes. Pour le sous-titre, paru aux éditions de l'Observatoire. C'est un regard sur les nouveaux préjugés. On va y revenir dans un instant. Quelques questions d'actualité d'abord, si vous le voulez bien. Était-ce une sage décision que d'interdire dans certaines villes hier les manifestations pro-palestiniennes au nom de soi-disant risques graves à l'ordre public?
Oui, je ne vois rien de liberticide dans l'interdiction de manifestations où on hurle mort aux juifs, Israël assassin, ça à la limite, mais enfin mort aux juifs ça me gêne, ou bien où on en appelle explicitement dans un slogan dont j'ai découvert l'existence hier d'ailleurs, qui fait référence à la bataille de Khaybar, au génocide de tous les juifs. Donc effectivement, oui, je ne vois rien de liberticide là-dedans, surtout quand c'est fait de façon différenciée, c'est-à-dire selon les endroits, selon les lieux, selon les informations dont les préfets disposent. Bon, il me semble que cette façon de se conduire est plutôt pragmatique, c'est-à-dire qu'il s'agit non pas d'interdire les choses, mais de les permettre dans la mesure où elles-mêmes ne contreviennent pas à l'ordre public ou bien à la sécurité des autres. Je ne vois rien là-dedans de liberticide. En revanche, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on ait eu assez peu... Je n'ai jamais connu de rassemblement, de mobilisation de cette nature pour les Ouïghours, les femmes afghanes assassinées à Kaboul ou bien les Rohingyas, l'assassinat ou la mort de musulmans ne mobilisait les belles âmes que quand c'était Israël qui s'en chargeait. Et je trouve ça, à la fois je comprends cette mobilisation et je la trouve... d'une certaine manière étrangement mobilisé sur un point et moins sur d'autres. C'est le fameux slogan « No Jews, no news ». C'est ça qui m'inquiète, moi.
Si on en croit un travail de parlementaire cette semaine au Sénat, les faits antisémites n'ont cessé d'augmenter depuis 2 ans. Comment est-ce que vous interprétez ça en ce moment ?
Il n'y a pas d'interprétation particulière à en faire. C'est-à-dire, l'antisémitisme existe depuis toujours. C'est une passion fondamentale de l'esprit humain. On a besoin de se donner un ennemi qu'on fabrique. C'est comme l'homophobie. On ne fera jamais l'économie d'un sentiment comme celui-là. Donc, croire qu'on va abolir ou supprimer l'antisémitisme est une illusion absolue. En revanche, que l'antisémitisme s'appuie sur des événements de géodiplomatie, comme c'est le cas depuis toujours, et qu'à l'occasion de tel ou tel conflit, il retrouve un peu de vigueur. Et une nouvelle actualité, c'est d'une banalité terrible, mais c'est d'une banalité totale.
Il y a en ce moment le Sénat, les sénateurs qui cherchent une définition précise à l'antisémitisme. Alors, je vous donne le fruit de leur réflexion pour l'instant, une définition qui tourne autour d'une, ouvrez les guillemets, certaine perception des juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard, à leurs biens, leurs institutions communautaires et les lieux de culte. Alors derrière ce débat,
bien sûr,
résonne la question suivante, peut-on critiquer la politique d'Israël sans passer pour un antisémite?
Mais c'est essentiel de pouvoir le faire, sinon je serais antisémite, on serait nombreux à être très antisémites. S'il suffisait de critiquer la politique israélienne pour être antisémite, il y aurait des antisémites partout. Alors peut-être y a-t-il des antisémites partout, mais je ne vois pas dans tout critique de la politique israélienne dont je fais partie, par exemple.
C'est-à-dire que la politique de Netanyahou est quand même criminelle.
Alors ça, c'est encore autre chose. Les mots qu'on emploie, c'est vous qui employez le mot de criminel. En revanche, il me semble qu'on peut faire l'objet, que cette politique-là peut faire l'objet d'une critique très très virulente, qu'on peut en travailler les fondements, qu'on peut aussi s'en prendre à une hyper-démocratie dont la proportionnelle impose des alliances contre nature et des alliances changeantes, qu'on peut dénoncer tout ça, mais que et indexer ça sur de l'antisémitisme est abject. Critiquer l'État d'Israël, c'est une chose. Nier son existence,
à ce moment-là,
voilà, nier son existence, ce que le mot d'antisionisme initialement désigne quand même. Nier son existence, lui refuser l'existence, me semble au contraire une démarche tout à fait monstrueuse et aux antipodes de la critique elle-même. Donc, en cela, Vladimir Jankélévitch pouvait dire dans les années 60 que l'antisionisme était l'aubaine démocratique qui permettait d'être la trouvaille miraculeuse, disait-il, qui permettait d'être démocratiquement antisémite. Il le disait à propos d'un discours dont l'ambition était de supprimer l'État d'Israël et non de critiquer l'État d'Israël. Pardon, je trouve cette nuance quand même... Enfin, c'est pas... C'est,
comment dire, il y a une telle différence entre une critique qu'on vous adresse et le refus que vous existiez, si vous voulez, que confondre les deux finalement me paraît un signe de sottise plus qu'autre chose.
Mais avec cette réflexion parlementaire sur l'antisémitisme, certains
redoutent... Ah oui, ça c'est autre chose. Alors ça c'est, pardon, c'est important cette histoire parce que il y a eu la mairie par exemple tout à fait clientéliste de Strasbourg qui a elle-même refusé d'endosser la définition de l'antisémitisme qui était une définition à peu près universellement reconnue mais qui incluait l'antisionisme. C'est une question délicate. Il arrive que l'antisionisme soit l'alibi de l'antisémitisme. Ça arrive très souvent, en particulier dans des manifestations où tout le monde se mobilise parce qu'il s'agit de Palestiniens, alors que si les musulmans étaient Rohingyas, tout le monde s'en fout. Donc, effectivement, il arrive que dans des événements comme ça, l'antisionisme soit l'alibi de l'antisémitisme. L'inscrire dans la définition de l'antisémitisme, à ce titre, me semble important, mais alors sous les réserves qui permettent la critique de l'État d'Israël. Il y avait là un compromis à trouver qui est peut-être impossible.
Et la réaction de Jean-Luc Mélenchon ?
Je sais pas ce qu'il a dit, Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, en général, ça m'amuse plutôt, mais là, j'ai pas.
Non, mais il dit qu'on flatte les complotistes et les antisémites dans le sens du mauvais poil et que finalement, bah, peut-être que certaines décisions prises en France seraient dictées par l'extrême droite israélienne.
C'est intéressant parce que pardonnez-moi, c'était ma réaction, ça. J'ai dit que Jean-Luc Mélenchon flattait les complotistes et les antisémites dans le
dans
sens du mauvais poil.
Dans un tweet, vous avez dit ça.
Oui, oui, absolument. Mmh. J'ai dit qu'il flattait les antisémites et les complotistes dans le sens du mauvais poil quand il laissait entendre que la France était le seul pays du monde à interdire une manifestation contre l'extrême droite israélienne, comme si la France ou le gouvernement français était entre les mains de l'extrême droite israélienne. En tout cas, sans le dire explicitement, il laissait à celui qui a envie de le penser la possibilité, toute latitude, pour penser que Jean-Luc Mélenchon estime la même chose que lui. Donc c'était plutôt ma critique.
Réaction, pardon,
je
oui.
trouve
oui,
effectivement
oui.
que Jean-Luc Mélenchon joue sur cette affaire, comme souvent depuis qu'il est à la pêche aux voix, un rôle tout à fait délétère, puisqu'il met son autorité de républicain, c'est tout le problème de Mélenchon. L'ombre portée de l'ancien républicain qu'il était lui
ancien
permet...
Ancien républicain ?
Oui, de l'ancien républicain qu'il était, l'homme qui a abjuré la République au profit de quelques voix. L'ombre portée de l'ancien républicain qu'il était continue de son autorité de couvrir, à mon avis, des déclarations qui ne relèvent pas de la République, mais du séparatisme ou de la démagogie la
plus
pure, en fait.
Pourquoi est-ce que vous dites qu'il a abjuré la République ?
Parce que Jean-Luc Mélenchon est un homme qui est revenu sur la totalité des déclarations qu'il tenait il y a 10 ans sur les sujets sur lesquels il s'exprime. Ne prenons qu'un seul exemple, qui était la candidate voilée du NPA il y a 10 ans. Jean-Luc Mélenchon était vent debout contre cette initiative, au nom d'arguments parfaitement républicains, et qu'à aucun moment, à l'époque, on eût soupçonné de racisme. 10 ans plus tard, Jean-Luc Mélenchon dit exactement l'inverse. Sur la non-mixité, c'est aussi la même chose. Voilà un homme dont les convictions sont soldables à l'étal du calcul de son intérêt. Le problème, c'est que quand on vise bas, on se plante et à mon avis, il fera un score à un chiffre dans un an. Mais ça, c'est une autre histoire.
Eh bien, dans la perspective de ces présidentielles, il y a ce sondage aujourd'hui sur l'avenir, l'utilité, puisque c'est le mot qui est pointé, l'utilité des partis. Et sondage qui paraît ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, sondage Ipsos, Soprasteria pour France Info et Le Parisien aujourd'hui en France. Les Français doutent de l'utilité du parti, le mouvement Les Républicains. On regarde aussi depuis quelques années disparaître à petit feu le Parti Socialiste. Vous qui avez été adhéré, je crois, au PS, il y a une vingtaine d'années, courant Jospin.
Non, j'étais courant Fabius.
Ah, pardon.
J'étais à la droite du PS. Je suis arrivé au PS, on m'a demandé d'écrire contre Mélenchon. Ça m'allait très bien. Ah. 2 ans plus tard, on m'a demandé d'écrire pour Mélenchon. Ça m'allait moins.
Et 20 ans après, vous dites contre Mélenchon aujourd'hui encore. Est-ce que vous faites partie pour le PS de ces ex-socialistes qui ne se reconnaissent plus dans ce parti?
C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui constatent le Parti Socialiste initialement est né d'un compromis, c'est une œuvre de raison, ce sont des gens qui n'ont pas voulu devenir fous, qui sont restés au Parti Socialiste, ils n'ont pas voulu verser dans le confort des idées radicales, c'était Léon Blum. Le problème, c'est que quand vous naissez d'un compromis, quand vous êtes l'enfant d'un compromis, vous êtes pour le meilleur un être de raison, ça donne des socialistes magnifiques, d'authentiques républicains, Bernard Cazeneuve aujourd'hui par exemple, mais vous êtes aussi pour le pire, parfois, non pas la même personne, mais vous produisez aussi des êtres dont le compromis ou l'accommodement est en vérité le seul credo, c'est-à-dire des gens dont la souplesse dorsale est étonnante. Et le Parti Socialiste a produit ces deux catégories de politique, c'est-à-dire ce que la politique produit de plus vénal, de plus misérable, de plus esquivant, de plus filou, de plus vindicatif, faussement vindicatif, et ce que la politique produit de plus noble. Et en cela, je reste, pour ma part, attaché à la grande histoire du Parti Socialiste, qui est une œuvre de raison, mais la petite histoire du Parti Socialiste, la note continue du Parti Socialiste, qui culmine aujourd'hui dans le fait de ne soutenir que des causes consensuelles, dans l'espoir, là encore, de récupérer quelques voix, ou de ne pas disparaître tout à fait, me paraît une chose désolante.
Vous tapez les politiques, là, sacrément, depuis
non,
tout à
l'heure. Non, je tape pas plus que d'habitude les politiques, si vous voulez, mais j'ai un problème avec ces gens qui sacrifient l'intérêt général, en l'occurrence l'intérêt de la gauche, sacrifient l'intérêt général ou un intérêt commun à la peur de mourir, en somme. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas d'être dissous. Si le Parti Socialiste ou le Parti Communiste n'envoie aucun candidat, ou la France Insoumise d'ailleurs, en vérité, ils disparaissent. Donc ils ne peuvent pas le faire. Donc pour ne pas mourir, ils ont besoin de tuer leur camp. Et c'est ce spectacle, moi, que je trouve fascinant. En soi, ce sont des mécanismes qui leur échappent.
Donc le délitement des partis politiques, comme d'autres, il y a quelques jours, des militaires, des généraux, parlaient du délitement de la France. Comment est-ce que vous avez interprété, entendu cette séquence des généraux?
Comme une dégradation de l'époque elle-même. Si vous voulez, il y a 60 ans, le carteron de généraux et le putsch d'Alger, c'était quand même plus sérieux. On avait quand même un peu peur. Là, on s'est marré. C'était une tribune dans Valeurs Actuelles qui a valu quelques tweets.
Alors, il y a eu deux tribunes, en fait. Mais
il y a eu deux tribunes. Vous avez raison. Il y a eu deux tribunes, dont une courageusement anonyme. Il y a eu deux tribunes. Écoutez, que des généraux factieux qui sont pour la moitié affiliés à l'extrême droite, ou que des généraux anonymes décident de penser que la France est décadente et menace de guerre civile uniquement parce qu'ils n'ont rien à faire et qu'ils s'ennuient. Je trouve ça à la fois pathétique pour les auteurs, lamentable pour le journal qui en fait deux fois la promotion, et désolant pour les gens qui brandissent la menace de guerre civile tout en étant parfaitement serein.
Mais c'est aussi dans le courant, enfin ça va dans un courant plus large aussi, d'une France très conservatrice, c'est comme ça que vous la voyez en ce moment ?
Je le vois comme une tension plutôt entre deux antipodes, un tango des antipodes, où chacun se déguise en la caricature de l'autre. Les indigènes ont envie de penser que la France, ce sont les généraux factieux, envie de penser que la France, ce sont les indigènes de la République. Le résultat, c'est qu'ils s'enflent l'un à l'autre comme deux poissons globes jusqu'au jour où ça dégonfle.
Raphaël Antoven, votre dernier livre, on y vient. Il a pour titre L'école des dames, et vous revisitez donc l'école des femmes de Molière à l'aune de notre société moderne post-MeToo, ce qui inverse et les rôles et les préjugés. Molière, est-ce que c'est à vos yeux l'auteur qui symbolise le mieux le pas de côté sur les préjugés?
Molière est un merveilleux auteur sur ces questions, notamment les questions féministes, parce que il est pour lui-même...
Il est aussi misogyne.
Justement, c'est pour ça qu'il est intéressant. Il est pour lui-même le porte-parole du mari cocu. Il est pour lui-même, il a toujours dit, le porte-parole du mari cocu ou de l'homme que les femmes savantes négligent et méprisent, parce que c'est un porc, en fait. C'est Georges Dandin, c'est Alceste, c'est vraiment... Peu de gens ont donné à la virilité prétendue des hommes autant de fessées. Peu d'hommes ont autant tourné en ridicule leur propre nature. Et il est aussi celui qui a mis dans la bouche des femmes des paroles libératoires qu'on n'avait jamais entendues. Les deux gestes les plus subversifs du XVIIe siècle en matière de féminisme et de conquête des droits, si ce mot est un peu anachronique, mais tant pis, je l'emploie, c'est Molière et Descartes. Descartes écrit le discours de la méthode en français pour être lui-même des femmes, dit-il. Ce qui n'était pas du mépris, c'était que les femmes n'avaient pas accès au latin. Et Molière, avec le personnage d'Angélique, avec le personnage sublime d'Agnès dans l'école des femmes...
Pourquoi même sublime avec Agnès, femmes, dont on a le sentiment qu'elle subit tout de même?
Parce qu'elle ne subit pas. Oui. Parce qu'elle ne subit pas. Pour mémoire, dans l'école des femmes, Agnès, elle est séquestrée par Arnolphe, qui considère que...
Et elle a un paquet de mecs autour d'elle.
Mais elle en a un. Enfin, il y en a un qui les vaut tous.
Voilà.
C'est ça qui est beau.
Mais il y en a d'autres dans la pièce.
Bien sûr, il y en a plein. Mais Agnès est séquestrée par Arnolphe. Il veut en faire une bête parce qu'il veut qu'elle reste à son service. Et puis Agnès, ingénument, tombe amoureuse d'Horace et elle en fait la confidence à Arnolphe sans savoir qu'elle fait mal en le lui disant. Lequel Horace est lui-même le confident d'Arnolphe. La pièce est géniale. Mais Agnès est celle à qui l'intelligence et la duplicité pour se libérer d'Arnolphe viennent. C'est-à-dire, elle est celle que la contrainte, que son geôlier et que ses mauvais traitements, à qui ses mauvais traitements ont inspiré la duplicité qu'elle n'avait pas au départ.
Et alors là, dans votre pièce à vous, Jeanne est une jeune première, on va dire, une très jeune femme qui a du succès, et Colin, c'est un ancien Pygmalion, c'est ça?
Il faut expliquer, Jeanne, c'est Agnès, voilà. Colin, c'est Arnolphe.
Colin est un acteur qui n'a pas eu le destin qu'il voulait, d'une
65 ans, et il bande mou.
J'ai 65
ans. Je vous en prie.
L'habite en quarantaine.
Oui, l'habite en quarantaine, oui, pardon. C'est écrit dans le livre.
C'est
pour ça que je le dis.
Vrai.
D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous me permettez de lire un extrait? C'est page 102.
Oui, mais laissez-moi dire du bien de Colin et de Jeanne d'abord.
Juste ça. Du bien.
En fait, le binôme Arnolphe-Agnès au XVIIe siècle, je lui ai substitué le binôme Colin-Jeanne. Jeanne est une jeune première qui cartonne, que Colin a un peu porté au début et Colin ne supporte pas de la voir s'échapper. Et il a l'idée, pour la garder un tout petit peu, de jouer l'école des, de monter l'école des femmes avec lui en Arnolphe et elle en Agnès, ce qu'elle accepte sous réserve de s'en partager la direction naturellement.
Mais elle lui fait savoir ce qu'elle pense, parce qu'à un moment donné, elle est impitoyable.
Elle écrit, le fait tout le temps.
Voilà, parce que j'ai dit oui, fallait-il que tu tentes, non, mon salaud, tu peux présenter tes adieux aux gâteries que tu voulais que je t'impose. Je ne suis pas née pour apaiser l'andropause.
Oui. Oui, oui, bah c'est-à-dire que c'est le moment où Colin dit à Jeanne, j'ai tout fait pour toi, je t'ai tant donné. Elle lui dit, ça va, t'avais même peur que je rencontre Polanski. Et lui dit, comment peux-tu mettre ça sur la table alors que je t'ai sauvé des griffes du diable? Dit-il digne. Elle lui dit, oui, mais enfin, quand moi je t'ai sucé, j'étais mineur, donc faut-il le rappeler. Et c'est à ce moment-là qu'elle part dans cette diatribe qui se termine par le bel alexandrin, je me lève, je me casse et je t'emmerde.
Voilà, et à un autre moment, elle lui reproche d'avaler ses mots. Pour qu'on comprenne pas trop ce qu'il dit à la fin des phrases. Et il lui dit, mais viens-tu de me comparer à François Hollande?
Oui.
Elle lui répond, ce serait te flatter car Hollande, lui, bande. Je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, dont on sait la vigueur et l'étonnant zizi. Je ne reviens pas sur le Benjamin Griveaux, dont le sort est si triste et le membre si beau.
De tous ces étalons, tu es la Messaline. Colin n'est pas ton nom, ton vrai nom, c'est Colline. Faut aller au bout. franchement, vous n'aviez que ça à lire. Mais vous avez raison, pourquoi pas,
c'est
pas
grave. C'est drôle.
Non mais c'est marrant, écoutez, je me suis énormément amusé à écrire ce texte, c'est vrai. Quitte à aller dans les rimes riches les plus convenues, c'est pas grave.
Et ce texte, il est dédié à Elisabeth Bernadette. Est-ce parce que c'est une amie à vous, une proche, ou est-ce pour la femme qu'elle incarne?
J'aimerais pouvoir dire que nous sommes amis, je n'en ai pas l'audace. En revanche, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et dont le nom s'est imposé à moi quand je me suis demandé à qui je devais la dédicacer. L'honnêteté commande de dire d'ailleurs que cette pièce, en vérité, a une double dédicace. Un petit problème de transmission d'informations fait qu'il n'y a qu'Elisabeth Badinter. Il y avait Elisabeth Badinter et mes camarades de l'Archicube, de la troupe de l'Archicube, qui était ma troupe de théâtre il y a quelques années, quand on était à l'école normale.
Est-ce qu'il y aura une suite? C'est écrit. D'abord, difficulté ou pas d'écrire en vers et en alexandrin, coupé à l'hémistiche?
C'est la première fois.
Non, alors pas coupé, pas justement. J'ai disloqué ce grand nier d'alexandrin, disait Hugo. J'ai voulu un peu me batailler avec la césure.
Donc c'est pas 6 plus 6.
Ça dépend. Parfois si, parfois non, voilà. Ouais. L'alexandrin est une contrainte merveilleuse, redoutable, parce que si vous mettez un S par exemple, vous êtes obligé d'inclure un pied supplémentaire, et donc pour que les vers ne soient pas bancals, il faut vraiment vous casser la tête, et il y en a toujours qui vous échappent, il y en a deux qui déconnent là dans le texte.
Ah.
Oui, là j'attends la réimpression, j'espère en vendre assez pour le réimprimer au moins une fois, et corriger les deux vers déconnants.
Et est-ce qu'il y aura une suite sur scène à cette pièce de théâtre, l'école des dames parodie en trois actes?
Évidemment,
je l'espère.
Et vous allez mettre en scène?
Écoutez, j'en ai l'idée en tout cas, ça s'est présenté à moi sous la forme d'une pièce, donc c'est quand même pas un hasard.
Alors on se précipitera pour lire cette École des Dames parodie en trois actes signée Raphaël Antoven. C'est un régal paru aux éditions de l'Observatoire.
Merci
d'être venu en parler ce matin sur France Inter.